Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. On est là, on est bien, c'est magnifique. Ça va être magnifique comme émission aujourd'hui encore. On va être bien accompagné comme tous les jours. En votre compagnie, on se régale, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Alors appelez vos amis, on sera encore plus. Voilà, on sera encore plus pour bien finir l'année avant l'Euro. Il y a beaucoup d'actu, comme d'habitude. Il y a des thèmes magnifiques, concoctés comme tous les jours par Jean-Louis Tour. Salut Jean-Louis.
Salut Jérôme, salut tout le monde.
Ah Jean-Louis.
Ouais, en pleine forme. Ah, quelle fin de saison, quel régal.
On a de la chance, on a du peps, mais on a de la chance parce qu'on a pris les mecs qui en avaient encore le plus que nous. C'est Jean-Michel Larquet. Salut Jean-Mi.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir.
T'as vu la pression? Hop, tout de suite, il dit bon, salut, bonsoir Captain. Avec du peps. Salut Steve Savidan avec nous.
Salut tout le monde.
Ah,
salut Jérôme, salut Jean-Louis, salut Jean-Michel. Ça va, impeccable.
Alors ce soir, Roten sans flamme autour de la polémique Mohamed Camara, joueur de Monaco, qui a caché les symboles de soutien à la journée de lutte contre l'homophobie le week-end dernier.
C'est possible ça encore.
Aucune sanction n'a été prise par son club depuis, même s'il y a des déclarations d'intention, mais pour l'instant, rien de clair. Les clubs sont-ils trop laxistes sur ces sujets? Vous pouvez nous appeler au 32-16, on fait le débat à 19h, ne ratez pas ça. À 18h30, le grand jugement continue. Tous les jours, dans Roten sans flamme, on passe en revue un acteur de la saison de l'Olympique de Marseille, après avoir acquitté Franck McCourt et Jean-Louis Gasset. On va ouvrir le dossier Jonathan Clauss ce soir.
Ah mais c'est une blague.
Sa saison est-elle ratée ou a-t-il des circonstances atténuantes? Rendez-vous tout à l'heure, la cour le décidera. À 18h45, il y aura une exclue dans le casar enchaîné. L'appel de Jim Radcliffe à Bruno Genesio pour venir entraîner Nice. Et puis la roue RMC est toujours là. Elle est prête à tourner et vous offrir jusqu'à 20 000 euros. Pour cela, soyez très attentifs aux trompettes. Dès que vous les entendez,
on entend les trompettes de 18h à 20h tous les jours.
Que les trompettes, ça c'est pas ce
Ah bah ça tombe bien, tu parles au moment où on parle des trompettes, Steve.
Le chef des trompettes. Là.
Dès que vous entendez les trompettes, et je précise que c'est l'instrument de musique, vous envoyez roue par SMS au 732-16. Ça peut tomber vraiment à n'importe quel moment.
Sur une analyse de Steve.
Roue au 732-16 pour gagner peut-être jusqu'à 20 000 euros. Mais tout de suite, les heures sombres arrivent en Ligue 1.
Ne m'appelez plus jamais.
Voilà, c'est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines.
Je sais que c'est dur à entendre. La Ligue 1, ça ne vaut rien.
Pourquoi pas la frappe d'Amin Harit qui passe au-dessus de la cage.
La France, elle m'a laissé tomber.
Et ce ballon coupé dans les 6 mètres qui vient mourir à côté du poteau.
On n'était pas loin de l'ennui sur la fin de la première période.
Oh, l'énorme but de Jérôme Rotin!
Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde.
On va peut-être revivre ces années terribles où on s'enflammait sur un but de Jérôme Roten, comme une finale de Coupe du Monde.
Déjà, tu retires ça tout de suite.
Époque-là.
Tu retires ça tout de suite.
Qui nous pend au nez maintenant.
Il y avait un grand
but de Roten contre Marichez commenté comme une finale de Coupe du Monde.
Ah bah ouais,
c'était ça la Ligue 1 à l'époque. Et peut-être qu'après le départ de Mbappé et de certaines grandes
après,
stars.
On a vu des buts de 35 mètres comme ça en pleine lucarne cette année.
Non, mais même
je sais pas. Est-ce que
t'as pas fait... 35 mètres en pleine lucarne.
Comment il a pu
c'est quoi regardez,
100 genre, mètres encore.
35 mètres.
Oui, 35 mètres.
Tu sais combien ça fait 35
Toi, tu jouais dans Olivier et
écoute, je pense 35 mètres le savoir un peu mieux que toi, Jean-Louis. Tu vois, tous les matins à l'âge de 5 ans, j'étais sur le terrain.
Mesurais pas pour autant.
Excuse-moi, on se rend compte des distances quand même, non?
Ah bon?
Ouais.
T'avais un appareil pour mesurer et tout.
Je te renvoie. De toute façon, peu importe. Et le but était incroyable. Bon, c'est plus beau de l'histoire de la Ligue 1.
Sinon, on parle de la Ligue 1. Je commence pas l'émission.
Bah, si.
But Roten Marichez.
Regarde.
On va le revoir.
Regarde, excentré côté gauche.
Jean-Michel, redonne-moi, s'il te plaît.
Non.
La taille du terrain. La taille de la surface.
Pas la taille des ballons, pas le poids des ballons. Sinon, j'appelle le.
La surface de réparation, 16,50 m.
D'accord.
Non, mais il pense 35 mètres, mais l'année prochaine, il le frappera de 40 mètres.
Chaque année, il gagne
5 mètres.
Tu tapes plus beau but de la Ligue 1, il va sortir.
C'est introuvable, ça arrive à page 50. Bon, allez, c'est pas grave, c'est introuvable.
Tu vas pas
faire l'émission sur le but de Jérôme Rotten. Il a marqué un dans sa carrière.
Oh, que son émission, Michel, quand même.
Pas toi.
Oui, d'accord, mais enfin, bon, c'est...
Pas toi, pas toi qui a commenté les
exploits. C'est désagréable pour ceux qui ont marqué beaucoup de buts.
Pas toi, avec le respect que j'ai pour toi, tu peux pas me parler comme ça de ma personne. Bon.
Alors, Jérôme, je viens de taper plus beau but de la Ligue 1, t'es même pas dans les 100 premiers.
Ouais. Ça tombait, on sera deux comme ça. Bon,
alors,
allez, vas-y.
Ah non. La Ligue 1. Ah non. Donc, alors, pourquoi on parle de tout ça? Parce que, on va peut-être revenir à une période où il y avait moins de stars en Ligue 1. L'époque des Rotten, des Savignan. Non, on n'y retourne pas. Donc, puisqu'il va y avoir le départ de Mbappé. Et qu'en plus du départ de Mbappé, on doit se préparer à ce que certaines stars quittent la Ligue 1. Ça arrive tous les ans, donc dans les clubs un peu plus moyens. Et puis il y a toujours autant d'incertitudes autour des droits télé. Il y a toujours pas de diffuseur pour la saison prochaine. Là, le message a été envoyé au club: soyez prudent dans votre budget prévisionnel par la DNCG.
Anticipé, ouais.
Voilà, partez sur de la fourchette basse. Hein. Faites comme si.
D'accord. Moi, le président, je me suis servi au passage, mais vous allez tirer la langue.
Là, c'est le président de la DNCG. Oui. Qui dit ça, pas Vincent Labrune.
Ça veut dire que ceux qui descendent sportivement cette année ou qui sont maintenus ne sont pas sûrs d'évoluer dans leur division l'année prochaine. Parce que si la DNCG, Jean-Michel, si la DNCG avertit déjà, ça veut dire qu'il va y avoir de la casse au niveau administratif.
Ouais, enfin, il faut quand même qu'il y ait 18 équipes en première division
Jean-Michel, on est sur BFM Business là. Vas-y.
Non, mais c'est bien ce que. Mais non, mais
à un moment, il faut être
logique. Si la DNCG avertit qu'il va
y avoir. Vas-y, Steve Le Chypre.
Jean-Michel, à un moment donné, sois sérieux aussi. C'est qu'à un moment donné, si la DNCG. Ça veut dire qu'il va y avoir des rétrogradations administratives et honnêtement, que ça soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, il y a beaucoup de clubs qui sont fébriles pour le budget.
Pour l'instant,
on n'en est pas là.
Pour qu'il faut d'abord que les gens passent devant la DNCG et là tout va être reporté à cause des droits télé de façon. Ouais. Mais bon, bref, les droits télé, c'est le problème.
On n'en est pas là.
Le départ des stars, c'est un autre problème. Est-ce qu'on doit se préparer à des années noires en Ligue 1? 32-16 pour débattre, Jérôme.
Écoute, je vais te répondre que non, Jean-Louis, parce que la Ligue 1, elle a toujours existé, star ou pas star, il y a toujours des joueurs qui ont été attractifs, qui ont été spectaculaires, et c'est le lot de n'importe quel championnat, et de notre championnat en particulier. On parle du championnat de France. On n'a pas attendu l'arrivée des Qataris pour avoir des stars dans notre championnat, déjà, c'est la première chose. Parce que là, pour reparler des stars, les stars, elles existent surtout...
Avant les Qataris ?
Comment ?
Donne-moi des grosses stars internationales avant les Qataris.
Mais il y en a toujours eu. Je vais pas prendre des exemples. Il y a eu des champions du monde qui ont évolué en Ligue 1. Il y a eu. Bon, il était jeune, Rodi, mais
c'était pas des stars à l'époque.
Ça dépend le mot de star. À Lyon, il y avait des grands joueurs. Tu vois, des grands joueurs.
Des stars. Ibrahimovic, Beckham, Neymar, Messi, Mbappé.
Ça, c'est les années Qataris. On est d'accord.
C'est ce que je te dis.
Donc,
avant les Qataris, est-ce qu'il y a eu des grandes stars internationales?
Il y a eu des grands joueurs. Et pour moi, grandes stars, ça dépend ce que tu mets en place. C'est toujours pareil. L'OM des années 90, il y a eu après les années Paris Saint-Germain. Le PSG a dominé. Après, il y a eu Monaco. Et très souvent, à Monaco, il y a eu des stars qui ont joué à Monaco. Oui, c'est vrai. À Marseille, il y a toujours eu des joueurs qui se sont révélés. Alors, peut-être qu'ils sont devenus encore plus stars après. Mais sur le moment. Sur le moment, entre le mot star, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Parce que le mot star, on l'emploie surtout depuis un peu plus de 10 ans. Et depuis 10 ans, l'arrivée des Qataris, en effet, ils ont pris les meilleurs joueurs à l'étranger. Et ils ont réussi à les ramener dans notre championnat de France. Ça, c'est la réalité. C'est ce qui a changé. Alors, on s'est habitué, Jean-Louis, pour répondre à tes questions, on s'est habitué à avoir des Ibrahimovic, à avoir des Thiago Motta, à avoir par la suite des Neymar, des Mbappé, des Léo Messi, des Beckham. Et à Paris, il y en a eu beaucoup. Alors après, avec plus ou moins de bons résultats, on est d'accord. Hein, tu vois, des réussites ou pas des réussites, peu importe. Elles ont apporté, si tu veux, l'attractivité, surtout à l'international. Mais sur le championnat de France, franchement, pour les Français, la passion, elle a pas changé. La passion reste la même. Celui qui est amoureux du championnat de France et qui est amoureux de son club, il va se passionner, il va avoir la même adrénaline, si tu veux, avec des stars au PSG ou pas au PSG. Moi, ce que je veux te dire, c'est que je pars du principe que c'est pas un problème de perdre Kylian Mbappé. Par contre, il faut que nos locomotives, et il n'y a pas que le PSG, que nos locomotives travaillent beaucoup mieux qu'ils l'ont fait déjà cette année. Parce que cette année, je suis le premier à dire, j'ai toujours défendu la Ligue 1, le niveau de la Ligue 1, mais je suis le premier à dire que cette année, c'est une catastrophe. Le niveau n'était pas le niveau qu'on espérait, surtout l'année où les droits sont remis en vente, et que c'est une catastrophe d'avoir eu le spectacle en Ligue 1 cette année. C'est anormal que Marseille soit à ce niveau-là, c'est pas normal que Lyon soit à ce niveau-là, même s'ils finissent bien.
Dans ce cas, ça va être des années noires.
Parce que ces équipes-là, Jean-Louis, ils ont les moyens. Aujourd'hui, ils ont les moyens, les budgets. On le voit avec certaines équipes en Europe pour travailler mieux et rendre le football aussi spectaculaire.
C'est vrai que l'Atalanta a beaucoup moins de budget.
Exactement. Et là, j'en veux. Et on en a parlé quand on a construit l'émission. Moi, je reste persuadé que c'est les dirigeants et les joueurs, c'est eux qui détiennent la clé. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'avoir des stars pour te rendre un football excitant, un football un peu plus proche de tes supporters, du peuple entre guillemets, ouvrir un peu plus. Parce que les dirigeants et même les entourages des joueurs, je pense qu'ils oublient quelque chose. Ils oublient que l'essentiel, c'est que le joueur, il y a une proximité avec son public, avec les médias, et que tu peux pas, d'année en année, priver les mecs de ce rapport-là, avec tes supporters, avec la presse, avec ceci, parce qu'ils sont dans une bulle, et les entourages les mettent encore plus dans une autre bulle. Donc, la bulle, tu peux plus l'exploser, et tu peux plus rentrer. Et le problème, c'est que quand tu rentres plus, et que le spectacle, en plus, il est pourri, comme cette année, eh ben, automatiquement, il y a un détachement du football français. Et c'est là qu'on rentre dans peut-être les années noires. Donc moi, j'ai un message à leur envoyer. Qu'il n'y ait plus de stars au PSG, du moins entre guillemets, parce qu'il y a encore des grands joueurs, et il y en aura dans tous les autres clubs que je viens de te citer. Il y en aura. S'ils travaillent mieux, il y en aura. Non, moi, je dis juste que ouvrez un peu plus les portes. Ayez plus de proximité avec votre public. Remettez un peu plus d'humain dans le football. Et vous verrez que le football et les passionnés du championnat de France, il y en a beaucoup, et des gamins, la nouvelle génération, c'est pareil, tu dois les piquer grâce à ça, grâce à cette proximité un peu plus d'humain, comme nous on a vécu, c'est tout. Et aujourd'hui, ils sont partis à l'opposé, et c'est une catastrophe.
Une star, Jérôme. Okay.
Alors, Jean-Michel, est-ce que tu es d'accord avec Jérôme ?
Écoute, c'est compliqué. D'abord, je pense qu'on a été parfois un petit peu baladé par les services de communication de quelques clubs et qu'on a bien mordu à l'hameçon parce qu'il y a eu des stars qui sont venues mais qui étaient des stars sur le retour ou des stars sur le déclin. Effectivement, on a beaucoup parlé de Messi. Le Messi du Paris Saint-Germain n'était pas celui de Barcelone, et le Neymar du Paris Saint-Germain n'était pas celui de Barcelone non plus. Donc ils étaient déjà de l'autre, ils descendaient la montagne de l'autre côté. Déjà, il y a eu deux stars pour moi au Paris Saint-Germain. Deux joueurs en pleine possession de leurs moyens et puis qui ont fait du spectacle, et puis qui était Zlatan, qui était atypique, et Mbappé. Il n'y en a pas eu 36, hein.
Exactement.
Et puis aujourd'hui, pour avoir une star, dites-moi qui vous feriez venir pour remplacer Mbappé dans le championnat de France.
C'est compliqué.
Quelle est la star mondiale aujourd'hui qui vous fait rêver, qui est l'équivalent d'un Maradona, d'un Platini, d'un Zidane, d'un Johan Cruyff?
Je veux dire qu'il y en a aujourd'hui. Il y en a moins des stars dans le foot actuel, c'est ça que tu veux dire?
Des stars, grandes stars.
Moi, il me semble. Des grandes stars qui sont en même temps un petit peu charismatiques, parce que Cruyff était quelqu'un qui avait autre chose que le terrain. Zizou, c'était le terrain. Platini, c'était le terrain et autre chose. Mais des grandes stars aujourd'hui. Oui, on m'a parlé de Haaland. Haaland, c'est un énorme buteur. Pour moi, c'est pas un immense footballeur. Voilà, c'est.
Non, mais on est d'accord.
Je suis réducteur volontairement, mais donc, de ce côté-là, je ne pense pas que le football français va perdre ou va être orphelin. Il y a pas de star en Espagne non plus. Alors à ce moment-là, je vais vous dire aussi.
Il y a Mbappé.
Vinicius.
Il y a Mbappé, Vinicius.
Vinicius, Bellingham.
Lewandowski.
Lewandowski, il cherche un avant-centre à Barcelone. Alors donc, bon, même s'il a été très très fort face au Paris Saint-Germain. Non, ce qui m'inquiète le plus, les gars, c'est que je vois des budgets pharaonique dans le football français aujourd'hui, Il travaille sans doute bien pour faire rentrer beaucoup d'argent avec des investisseurs étrangers, des Américains, des Chinois, des Japonais. Ça se passe parfois bien, parfois pas très bien. Mais les dirigeants, et là je rejoins Jérôme à 200%, les dirigeants, c'est-à-dire le président, le directeur sportif, et là, ils travaillent, on est nuls. On est surtout nuls en dehors du terrain, nous les Français. On est surtout nuls à ce moment-là. Sur le terrain, pour quelle raison on serait encore champion du monde, Jean-Louis ? Deux fois champion du monde. Tu te rends compte ce que ça représente ? C'est fabuleux. Donc sur le terrain, c'est plutôt pas mal. Mais en dehors du terrain, avec des budgets de 200-220 millions, tu prends l'Olympique de Marseille, tu as à peine un bon joueur par ligne.
Oui.
Je dis pas une star.
À peine, oui, non, mais tu as raison.
Je te dis, tu as un bon joueur par ligne.
Oui,
tu enlèves déjà la ligne de gardien de but. Bon, tu en as un bon joueur en défense. Au milieu de terrain, Jérôme, je n'en suis pas sûr.
Ouais, bah, je te laisse juger.
Et un avançant qui marque les buts. Voilà. Tu te rends compte, avec 220 ou 230 millions de budget.
C'est pour ça, Jean-Louis, il ne comprend pas ça.
Alors, Steve, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Est-ce qu'on doit se préparer à des années noires ?
Bah, bien sûr. Bien sûr, parce que ça travaille pas assez. Ça travaille pas assez, c'est prétentieux dans le foot, et je rejoins Jérôme et Jean-Michel. Dans le foot aujourd'hui, on pense beaucoup plus que c'est la communication qui gère le sportif. Je vois depuis des années, et je m'offusque à chaque fois, que ça soit les community managers qui gèrent pratiquement la communication des clubs, mais la politique sportive, la politique technique, moi j'en ai marre de voir... Franchement, toutes les 5 secondes, des vidéos de joueurs à l'entraînement, de communiquer là-dessus. Alors qu'au final, on crée énormément de distance. Les community managers aujourd'hui, pour moi, alors je dis pas qu'ils ne servent à rien dans les clubs, parce que c'est eux qui ont une importance, mais c'est la politique club, hein, bien sûr, in fine. C'est que on a mis
donc
énormément de distance
à cause des community managers là.
Non, je te parle de ma réflexion. En fait. De ma réflexion, c'est qu'on consomme tellement de foot, il y a plus rien de
D'authentique, de sincère,
et comme disait Jérôme tout à l'heure, de proximité. Je vois énormément de clubs, par exemple, moi je me balade quand même pas mal en France, énormément de clubs qui font pratiquement des séances à huis clos pratiquement tous les jours.
Non, mais ça c'est vrai. Mais c'est juste pour
donc
ça,
en fait, alors attends, je finis là-dessus.
Attends, avec le championnat,
je vais finir là-dessus. Non mais je finis là-dessus, Jean-Louis. Donc derrière, il y a cette proximité qui a été complètement cassée depuis une dizaine d'années avec cette communication à outrance. Derrière, il y a une nouvelle génération de consommateurs de football, c'est-à-dire les stades, la télé. On ne sait même plus sur quel moyen, quelle chaîne regarder les matchs. Il y a trop de il y en a toujours trop. Et puis des joueurs qui aujourd'hui, je pense avoir cette réflexion. Le joueur moyen en France coûte ultra cher. La star ne te coûte pas cher parce qu'elle est rentable, elle va avoir du merchandising derrière, donc il va pas y avoir cette problématique-là, et en plus elle aura sans doute du rendement. Mais le joueur moyen pour composer un 11 de départ, et là je rejoins Jean-Michel tout à l'heure, quel très bon joueur dans 5-6 équipes de Ligue 1 avec les plus gros budgets ? Il y en a pas. À part on enlève le PSG, QSI. Là, j'enlève ça. Marseille.
T'en as un peu.
Mais c'est pas des. Eh ben regarde, Marseille. Aubameyang. Toi qui es une
t'en
star,
un
toi.
T'en as un peu à Lille.
Qui à Lille?
À Lille, t'as les jeunes là qui ont une grosse valeur. T'as un grand gardien.
Mais ça reste encore à confirmer.
Jonathan David qui est quand même pas un mauvais.
C'est pas des mauvais joueurs, mais je te parle de
sur la fin, de joueurs, de stars. Toujours montré que c'était un bon joueur.
Et ben comme disait Jean-Michel tout à l'heure, nous on soit en forme des futurs stars. Où on récupère des stars qui sont sur la descente de la montagne. Ouais. Et donc, en fait, il faut savoir admettre, et Jean-Louis, à ta question, est-ce que on va vivre des années noires ? Non. On va vivre des années réalistes avec un football économique français qui va être moindre. Donc, il va falloir arrêter cette bulle. Et ça, c'est une réflexion de Manu Petit, cette bulle spéculative que je crois que vous servez à chaque fois. C'est inflationniste et tout ça. C'est qu'à un moment donné, on a pété plus haut que notre cul, on n'arrive pas à être attractif, formateur. Moi, je regarde, je suis énormément championnat U19.
Formateur, on l'est.
On est formateur pour les autres championnats.
Non, attends, tu peux être formateur.
Regarde, le championnat U19. Je vous invite à regarder. Là, il va y avoir la Gambardella.
Marseille contre Nancy.
Regarde, on parle de forme. On parle de formation. Sur le championnat U19, à Marseille, ils vont sans doute gagner la Coupe Gambardella. Combien de joueurs, à l'issue de ce match, vont intégrer l'effectif à Marseille, à Marseille, on va en parler tout à l'heure, à Marseille.
Mais ça, c'est pas la faute des joueurs, ça.
Mais c'est pas dit que c'était la faute des joueurs. Jean-Michel, c'est pas dit que c'était la faute des joueurs.
Il dit juste qu'il y a une formation qui est faite pour les autres, puisque ces joueurs-là.
On forme pour les autres.
Ouais, bon, après sors-moi les grands jeunes qui n'ont pas explosé à Marseille et qui n'ont pas signé leur contrat et qui ont explosé ailleurs.
Arrêtez.
T'as énervé Jean-Michel.
On forme. Oui, non, mais c'est pas. Non, personne ne m'énerve. Je suis calme et serein parce que j'ai toujours raison. Donc, j'ai pas besoin de m'énerver.
Ça y est, je me savais bien que t'étais le mentor de Jérôme Rotem.
J'ai pas besoin de m'énerver. Non, on forme pas pour les autres. Mais à un moment ou à un autre, il faut quand même considérer que chez les footballeurs professionnels, quel que soit leur âge, à un moment ou à un autre, ils signent un contrat. Oui. Et effectivement. Chaque fois qu'on leur propose un contrat en France, avec les règles sociales qu'il y a et les prélèvements qu'il y a, eh bien, chaque fois qu'on leur propose un contrat en France, il est très, très, très nettement inférieur à tout ce qu'on lui propose ailleurs.
Donc,
les dés sont pipés dès le départ.
T'as raison.
Dès le départ. Donc, moi, je veux bien qu'on ne soit pas formateur. On est formateur.
Alors.
Et on est formateur pour les autres, parce que les autres... Avec 30 euros, ils achètent beaucoup mieux que les Français avec 30 euros. Parce que quand tu mets 30 euros dans la main d'un joueur en France, il lui en reste 10. Et quand il est ailleurs, il lui en reste 28.
Voyons ce qu'on pense Gabriel qui nous rejoint au 30 Jérôme.
Salut Gabriel.
Tu brûles mon esprit, ton nez.
Gabriel.
Et Gabriel.
Salut, vous m'entendez bien?
Ouais, c'est bon, on t'entend. Bon,
on l'habite KO là.
Écoute Gabriel, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que la Ligue 1 va manger son pain noir sur les prochaines années?
Moi, j'ai bien peur que oui. Hein. Je vais rejoindre un peu la partie du oui pour plusieurs raisons et vous les avez citées la plupart du temps. Aussi bien pour le niveau de jeu, principalement, comme tu l'as relevé, Jérôme, sur les équipes qui sont pas
attendues. Enlève ton clignotant, Gabriel.
Qui sont pas aux attendus, je me suis arrêté pour respecter les règles.
Donc, bravo. On enlève les warnings alors, on les entend.
Ouais. C'est bon. Donc du coup, je disais par rapport au niveau de jeu qui est pas aux attendus. Ouais. La deuxième, c'est ce que Sabine vient de dire, hein, c'est les distributeurs. Les distributeurs, maintenant aujourd'hui, d'une année à une autre, faut s'abonner à différentes chaînes pour avoir accès à la Ligue 1. C'est toujours compliqué, c'est toujours avoir.
Là-dessus, sur les diffuseurs, on peut être d'accord. Et puis il y a un super. Il y a un coût surtout, ça coûte cher, mais n'empêche que t'es prêt à suivre et si les clubs te donnent, si ton club, le club que tu supportes ou le championnat que tu supportes te donne du spectacle, dire tu peux pas voir des purges comme on a
pas
vu cette année.
Pas forcément, Jérôme, je suis pas d'accord avec toi.
Si cette année, tu peux suivre un club.
Eh ben alors comment c'est possible? Alors excuse-moi, comment c'est possible qu'à Lens, tu vas au stade, tu kiffes ton club même quand ils étaient en Ligue 2, à Strasbourg quand ils étaient en Ligue 2, tu kiffes
Lens,
plein.
Lens surfe sur leurs dernières années où ils ont été brillants.
Il n'y a pas de vague à Lens, je te confirme.
Moi je vais te dire, ils surfent sur leurs 2-3 dernières années. Sauf que cette année, tu prends l'exemple, même il y a eu des sifflets, ça a été reproché même par les joueurs en disant ouais c'est des enfants gâtés maintenant, ils ont perdu l'habitude des années noires qu'on a eu en 2010 ou même après. À l'arrivée, c'est parce que ils ont senti que l'équipe elle avait régressé. Je suis désolé. Cette équipe-là, moi, elle a été à un certain niveau. Je suis là pour constater. Ils sont aussi responsables de la mauvaise année de la Ligue 1. C'est que Lens, ils ont régressé. Lens, ils étaient moins bons cette année. Voilà. Oui, ils ont vendu leurs meilleurs
joueurs.
Oui, mais d'accord. Mais surtout, mais à une époque,
par qui
ils
on
avaient peut-être moins de meilleurs joueurs. Mais l'équipe dégageait plus de force collective.
Allez, on arrête là. Merci.
Mais on s'en fout du résultat. Leur stade est plein. Ils ont un amour de leur public.
Mais c'est pas le seul.
Donc ce n'est pas que les résultats.
Mais non, mais tu me parles des supporters. Ne confonds pas les supporters et les spectateurs, ceux qui vont au stade, avec ceux qui regardent la Ligue 1 et qui consomment à la télé, qui payent.
Et puis les résultats.
Parce que les influences de Ligue 1 à l'arrivée, elles sont bonnes. Regarde à Marseille. Marseille, saison catastrophique. Ils ont fait le plein toute l'année.
Allez, on arrête.
Et donc
là.
Alors
Et ben donc, ça, c'est pas le reflet de ce que vaut la Ligue 1 réellement. Voilà. Par contre, bah, oui. Est-ce que tu t'abonnes pour regarder l'Olympique de Marseille à la télé? Je te dis que non.
Allez, on arrête sur ce débat. C'était passionnant. J'ai juste une dernière petite question. Jean-Michel, toi qui maîtrises la géométrie, juste l'angle de la surface de réparation. Vraiment l'angle. On considère qu'il est à 35 mètres.
L'angle de la surface de réparation
Par rapport à quoi?
Non, mais il faut calculer l'hypoténuse.
Ouais, bah je l'ai fait, c'est fait 25 mètres.
25 mètres, j'allais dire.
Voilà. Peut-être. Oui.
Alors, donc jamais 35 mètres.
Déjà 25 mètres.
Mais
sache que la frappe, elle est pas
Steve,
dans l'angle.
Steve,
elle est exactement dans l'angle.
Steve,
mais elle est 5 mètres.
Je voulais dire à Steve que.
Alors.
Oui, Jean-Michel.
Si tu me dis 30 mètres, je peux être d'accord.
Il est à l'angle. La frappe est à l'angle. À l'angle. Un mètre avant la surface.
Un mètre.
Donc allez, je te l'ai fait à 26 mètres.
Mais bidon, quoi.
Précision pour Steve. L'hypoténuse, c'est pas une insulte, c'est pas un gros mot.
Alors Jean-Michel, il y a beaucoup de choses où là je suis pas bon, mais l'histoire et les mathématiques, je suis costaud.
Bah voilà, moi j'ai aucun doute là-dessus.
Le foot, je le laisse.
Et l'économie, si.
Le foot, je le laisse.
L'économie. La bulle spéculative. Oui, la bulle.
Ça dit quoi, le foot, tu nous le laisses? Ouais, bah heureusement encore.
Non. Je vais dire. Je vous laisse parce que vous êtes soi-disant des experts.
Soi-disant.
La saison de Jonathan Klaus est-elle un échec total ou a-t-il des circonstances atténuantes? C'est le grand jugement de la saison de l'OM qui arrive dans Rotten sans flamme.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
18h31 sur RMC, on est là, on est bien. Deuxième demi-heure de Rotten sans flamme du soir et ça va être le procès. Le procès, le grand jugement de l'Olympique de Marseille. On va s'attaquer à Jonathan Klaus dans un instant sur le banc des accusés. On est avec Steve Savidan, avec Jean-Michel Larquet et avec Jean-Louis Tour. Et bien entendu, comme tous les jours, vous en avez l'habitude, le moment de Julien Cazard dans une petite quinzaine de minutes, Jean-Louis.
Julien Cazard, et en deuxième heure, un invité sera avec nous, Éric Roy.
Ah, L'entraîneur de l'année.
Eh oui. L'entraîneur de Brest sera là.
Il doit être courtisé. Hein.
Peut-être le futur entraîneur de l'OM.
On l'avait annoncé. Hein.
Oui, surtout toi. Rendez-vous en deuxième heure pour, si vous êtes supporter brestois, vous pourrez appeler au 32-16. Mais le grand jugement continue.
Le latéral marseillais dans la surface de réparation, il a poussé son ballon un peu loin. Mais il va marquer Jonathan Klaus, le premier but pour l'Olympique de Marseille.
Jonathan Klaus, il doit être un joueur important pour cette équipe. Mais être un joueur important, il s'est fait avec toutes les petites attitudes dans le quotidien.
C'est d'abord lié forcément à ses performances. Il est moins bon depuis environ 2 mois.
Il m'a mis en garde sur 2-3 joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là.
Le grand jugement.
Après avoir acquitté Franck McCourt, puis Jean-Louis Gasset, le grand jugement va se pencher sur les joueurs de l'effectif marseillais pour faire donc le bilan de la saison que l'on fait tous les jours dans Rotten sans flamme. Et on a ciblé Jonathan Klaus, le défenseur, le latéral droit, qui a été au centre donc d'une polémique en milieu de saison. Vous avez écouté les extraits de Pablo Longoria et Mehdi Benassia à l'instant. Sur le terrain, Klaus, c'est 43 matchs toutes compétitions confondues, 5 buts, 12 passes décisives et donc ses critiques sur son manque d'investissement à un moment donné de la saison. On lui reprochait de vouloir se préserver en vue de l'Euro. Qu'avez-vous pensé de sa saison? Est-elle insuffisante ou a-t-il des circonstances atténuantes? Pour le procureur, elle est ratée. Le procureur, c'est maître Jérôme Rotten. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
L'avocat de Jonathan Klaus, ce sera maître Steve Savidan. Bonsoir.
Oh, bonsoir.
Et le juge qui est là pour trancher l'affaire, c'est le juge Larquet. Bonsoir, monsieur le juge.
J'adore cette position.
Bien sûr.
T'es excellent.
Alors allons-y, monsieur le procureur. Qu'est-ce que vous reprochez à la saison de Jonathan Klaus? Pourquoi elle est ratée?
Bah, Alors, moi,
ça bégaye déjà.
Non, j'ai hâte d'entendre Steve Savidan nous défendre Jonathan Clauss, parce que quand il y a un joueur international, et à Marseille, on ne peut pas dire qu'il y en a beaucoup, tu as un certain.
Des fois, il faut mieux écrire.
Tu as un certain statut dans une équipe, et automatiquement, il est devenu international, pas grâce aux médias ou grâce à autre chose, grâce à son travail, parce qu'il y a eu une ascension fulgurante, et tant mieux pour lui, il l'a mérité, sa sélection et ses sélections. N'empêche que derrière c'est un poids, c'est comme ça, le statut il change, et donc t'as le devoir d'apporter des choses bien plus importantes au club, sur le terrain et même en dehors, qu'un joueur lambda. C'est pour ça qu'on dit que les joueurs internationaux touchent plus d'argent, ont un statut particulier dans les clubs, parce que c'est la réalité et c'est ça qui te fait avancer. Et quand à Marseille en plus tu souffres des bons joueurs, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Michel, je pense que automatiquement t'attendais que Jonathan Clauss fonctionne comme un joueur leader déjà sur le terrain. Je parle même pas dans le vestiaire, parce que ça, la personnalité de chacun, c'est pas parce que t'es un joueur international que dans le vestiaire tu dois ouvrir ta tronche, tu dois parler, remotiver les troupes. Peut-être que lui c'est pas cette personnalité là sauf que sur le terrain tu dois dégager de la sérénité, de la force. Et tout au long de la saison, ce que j'ai constaté par rapport à l'année dernière, où Jonathan Clauss avait fait une très bonne saison, j'étais le premier à militer pour qu'il retrouve l'équipe de France, qui était injustement retirée, qui lui avait été injustement retirée, parce que il y a une pénurie d'arrière-droit en France. On n'a pas de bons arrière-droits. Quand tu vois que c'est Koundé ou Pavard, tu te dis il y a un spécialiste du poste. Et Jonathan Clauss, on a le droit de le tester. Sauf que le test, pour moi, il l'a pas passé positivement, et qu'il a montré ses limites. Et les limites, c'est cette année avec l'Olympique de Marseille. Alors il y a les stats que tu viens de donner. Moi, en Ligue 1, quand la qualité principale de Jonathan Clauss est d'être un bon contre-attaquant, et donc de délivrer des bons centres et des bonnes passes, parce qu'il a un bon pied. Quand tu mets que 4 passes décisives dans l'année en championnat, c'est insuffisant. C'est déjà insuffisant. Ton année, pour moi, elle n'est pas réussie, surtout quand tu as un attaquant.
Toute compétition confondue,
quand même. Surtout quand tu as un attaquant, Jean-Louis, qui met 15-20 buts. Tu vois, quand tu as un attaquant prolifique, quand tu as un attaquant qui rate des choses, je veux bien. Il y a des fois, la passe décisive, elle aurait pu être décisive, mais elle n'est pas comptée parce que l'attaquant fait n'importe quoi. Ce qui n'est pas le cas. Et
après, on ne peut pas dire qu'il est un avant-centre non plus pour recevoir les centres. Tu vois,
les matchs, on les a vus. Et quand tu vois l'OM qui a peiné, surtout sur les matchs à l'extérieur, un manque de caractère, c'est aussi le manque de force des joueurs comme Jonathan Clauss. Et quand tu es un joueur international, et je finirai là-dessus, tu te dois d'apporter beaucoup plus, de montrer ta force. Okay. Et j'ai l'impression, c'est pas une impression, c'est un constat tout au long de l'année, dès que le niveau s'est élevé, et on l'a vu sur les deux matchs contre l'Atalanta, on l'a vu sur certains matchs de Coupe d'Europe, on l'a vu sur les grands matchs de Ligue 1, et il n'y en a pas eu beaucoup, et sur les matchs d'équipe de France, je trouve que plus ça va, moins ça va pour lui. Quand ça monte, il montre trop de limites. Et puis surtout défensivement.
Oui,
défensivement, surtout. Je suis désolé.
Il faut donner la parole à la défense.
Mais il y a beaucoup, beaucoup trop de manques. Je suis désolé, Jonathan, j'ai cru en toi, mais je trouve que tu as atteint un plafond de verre.
Steve.
Alors déjà, moi je vais rejoindre un petit peu Jérôme. Moi, la saison de Jonathan Clauss, pour moi, elle n'a pas été excellente, elle a été bonne. Ça a été une bonne saison.
Tu rejoins pas Jérôme
dans... Non, mais parce que je vais rejoindre Jérôme justement par la suite. C'est que en fait, il a eu cette année, comme l'OM, il y a eu un plafond de verre. Il y a eu une saison compliquée pour l'OM en deux étapes, voire même plus ou moins trois étapes, avec les changements d'entraîneur, changement de dispositif de jeu, changement d'attitude. Et faut pas oublier quand même que tu as un attaquant, et on revient sur les caractéristiques que Jérôme disait, sur un joueur qui potentiellement met des centres, met des passes décisives. Aubameyang, en tant qu'attaquant, première partie de saison, ça n'a pas été génial non plus. Donc à un moment donné, tu peux faire des passes, Jérôme, tu le sais bien, ton attaquant, il doit marquer pour que ça devienne des passes décisives. Moi, je crois que surtout, c'est qu'on se trompe dans le jugement de Jonathan Clauss. Parce que quand on entend Benassia, directeur sportif de l'OM, et Longoria, je crois que surtout, là où ça a été le gros problème cette année, et là, la merde, elle a été foutue dans sa tête, c'est qu'il arrive en fin de contrat l'année prochaine. Ils l'ont acheté 11 millions d'euros. Ils sentent une opportunité. Là, j'ai regardé sur Transfermarkt, il est valorisé à 15 millions d'euros. Ils se disent... regarde, ça serait peut-être cette année qu'il devrait partir ou qu'on devrait le faire vendre. Peut-être valorisation de son contrat, une masse salariale qui est assez importante quand même, parce que justement il est international, donc comme le disait Jérôme, un peu plus payé que les autres, ce qui est normal. Ils se disent ça peut être ça. Maintenant, sur le joueur en lui-même, c'est pas une année facile non plus pour lui. Et là, je trouve pas forcément de toujours des justifications. Quand tu arrives à l'OM, tu dois savoir que quand tu arrives à l'OM, ça va être un contexte particulier. Et là, c'est là où je rejoins Jérôme. Son plafond de verre à l'OM, il l'a connu cette année. Ça a été compliqué. Il n'a pas réussi à élever son niveau de jeu. Maintenant, l'OM, c'est pas une top saison. Si on s'attendait à ce qu'un joueur qui avait fait la montée avec Lens soit le meneur de cette équipe à l'OM, je pense que l'OM a une grande responsabilité okay. dans sa saison qui a été un peu mitigée, parce qu'ils auraient dû, s'ils comptaient sur un meneur, le mettre dans des conditions beaucoup plus favorables et pas le déstabiliser comme ils l'ont fait plusieurs fois dans cette saison.
Le verdict, monsieur le juge, est-ce que Jonathan Clauss est condamné?
Si personne n'est responsable de la mauvaise saison de l'Olympique de Marseille, ni l'entraîneur, ni le président, ni les joueurs, j'ai peur contre eux. On tombe sur les balayeurs du coin.
Non, ils sont en grève à Marseille, fais gaffe.
Ils sont peut-être, on va tomber sur lui quand même, c'est pas grave. Non, messieurs, arrêtons de plaisanter. Évidemment que c'est insuffisant. Évidemment que Jérôme oui. a raison. Évidemment.
Ah ouais, mais Jean-Michel, t'as pas le droit. Oh là là.
Pourquoi tu t'énerves comme ça?
Je m'énerve pas déjà. Tu as pas vu quand je m'énerve, Jean-Louis. Hein. Non, mais là, c'est pas possible. On peut pas.
On a l'air en désaccord.
Jean-Michel, confirme ta décision.
Et évidemment que Jonathan Clauss, international, avait à faire beaucoup plus qu'il n'a fait cette année. Il a fait une mauvaise saison.
Parfait. Merci Jean-Michel.
Bravo.
On a été gentil, on n'a même pas parlé de son état d'esprit. Parce que quand tu as autant de choses qui sortent du vestiaire de l'Olympique de Marseille, c'est que même lui n'a pas été réprochable.
Allez, dans une seconde, le casar enchaîné avec Bruno Genesio dedans, Jérôme, ton ami, celui dont tu as révélé des infos exclusives hier.
Moi, il me manque.
Allez, à tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h46 sur RMC. On est là, on est bien dans Roten sans flamme. On finit la première heure et après 19h, on a encore un bon programme concocté comme tous les jours par Jean-Louis Tour. On est avec Jean-Michel Larquet, Steve Savidan. Ce soir, restez bien avec nous. On est là jusqu'à 20h. Là, ça va être le moment de se détendre avec Julien Cazar, qui, me semble-t-il, a bien travaillé aujourd'hui.
Oh, il te semble? T'avances pas trop.
Je sais pas devant toi. On sent que c'est la fin pour tout le monde.
Les clubs, à 19h, les clubs sont-ils trop laxistes sur notamment les polémiques du week-end et la polémique Camara à Monaco 32-16? Pour participer au débat, on sera aussi avec Eric Roy tout à l'heure.
Ah, la chance!
RMC Roten sans flamme.
Le casar enchaîné.
Avec Roy Henrique.
J'aime bien ces ponctuations.
Et toujours. Bonsoir à toutes et à tous. Salut les copains. Bonsoir. Salut Jérôme. Salut Jean-Louis. Salut Jean-Michel. Salut Steve. Toujours la patate. Toujours excellent.
Oui, tu l'essaies, Juju.
J'ai vu que tu as posté une photo où tu étais sur la tombe de Johnny.
Eh oui, yeah, tu le sais, j'ai eu cette chance. Mourir l'amour enchaîné.
Mourir d'amour enchaîné, monsieur. Il va mieux,
t'es belle nouvelle.
Ouais, non, et bah franchement, beau petit pèlerinage, j'ai pensé à ma petite maman, voilà, c'est tout. Des choses simples.
Bien sûr, c'est des choses simples, c'est important. C'est toi, tu nous rappelles le football d'en bas, ça fait du bien. Les vrais gens, les petites gens, les gens de peu de rien et de peu de tout. Ouais. Bonsoir à toutes et à tous.
99% des auditeurs quand même. Hein,
pour pas dire ça.
À part les copains.
Pour pas dire
ça. Non, parce que les 1%, c'est les potes de Jérôme.
Bien sûr, ah bon ? Vas-y. Ils n'écoutent pas France Culture. Bonsoir à tous et à tous. Nous sommes le 23 mai 2024 et la Ligue 1 n'a toujours pas de diffuseur. Eh oui, toujours pas. Non, il y a pas. Alors c'est grave dans un sens, oui. Mais dans un autre sens, pas tant que ça, s'il n'y a pas de diffuseur, au pire, on ne voit pas les matchs. Et franchement, est-ce que c'est si grave que ça?
Bah, certains, non. Nous, ça nous embête un peu. Pourquoi? On a besoin de regarder les matchs pour les émissions.
Mais nous, on peut faire quand même des émissions, on n'est pas obligé.
Jean-Louis, ça fait combien de temps que tu n'as pas été au stade? Stade.
Quelle est l'émission?
Il y en a combien qui ont fait des émissions sans regarder les matchs?
Quelle est l'émission de sport qui fait le plus d'audience sur RMC?
Le Moscato Show, mais Rotten sans flamme arrive. Mais oui, le Moscato Show.
Est-ce que tu écoutes le Moscato Show? Est-ce que tu crois vraiment que Vincent Moscato, il regarde les matchs de foot, les matchs de tennis et le handball?
Et les matchs de rugby?
Ah, parce que tu crois vraiment que Vincent il regarde le rugby?
Non, justement, je pense qu'il fait la même chose que pour les matchs de foot.
On va quand même vérifier si vraiment on a besoin de regarder un sport. Par exemple, je prends hier, passage antenne, il est 15h. Ça parle du capitaine de Leinster. Le Leinster, c'est quand même une grosse équipe. On parle, c'est un peu comme le Real, le Barça. Le capitaine, trop facile pour Vincent. Bon, évidemment, c'est Gibson Park, on le sait, c'est cadeau, c'est Vincent.
d'énormes équipes face à face, mais un homme, Antoine Dupont, qui peut tout faire basculer. Est-ce que ça dépend de lui?
Dupont, ça dépend de lui, mais ce qui est intéressant, c'est que ça dépend des deux demi-mêlées. En face, le demi-irlandais qui est extraordinaire, l'ancien All Black, qui s'appelle Jamie Foxx.
Jamie Foxx, Gibson Park, Jamie Foxx, Paul Walker, tu l'appelles comme tu veux, et roule ma poule. Et ça, c'est combien d'audience? C'est la meilleure audience.
Million.
Donc, excusez-moi, si au pire, bon, tu vois, c'est un carton absolu, ça va dire qu'on chaque année sans avoir vu un seul match en faisant des débats aussi pointus que chez nous, du genre, est-ce qu'on est dur avec Mbappé? Est-ce qu'on est trop sympa? Bon, tu vois, des trucs pointus. Et je vous rappelle qu'on fait des débats aussi avec Pascal Olmeta. Est-ce que vous pensez vraiment que Pascal Olmeta regarde les matchs?
Oui.
Merci.
Oui,
donc,
sûr, mais donc, il serait pas là sinon.
Donc, moi, j'ai une pensée pour tous les autres acteurs du monde du foot, mais leur dire que nous, RMC, nous, ça ne nous changera rien. S'il n'y a pas de diffusion, allez, sommaire. On s'en fout, on regarde pas.
Dans complètement.
On regardera éventuellement un peu de Coupe d'Europe. Dans cette édition, nous reviendrons sur notre thème de la semaine, le coup de pompe. Ce fameux coup de pompe dont on est un peu tous victimes, j'ai l'impression, qui se propage de plus en plus dans la rédaction. Pas toi, Jean-Louis, évidemment. Toi, t'es au max. Surtout auprès de ceux qui ont bossé d'arrache-pied toute l'année, qui sont sur les rotules. Vous voyez de qui je veux parler?
Non.
Christophe Dugarry, bien entendu. Stacanoviste du métier de consultant. Qui finit l'année. Tu sais, on sent que, tu sais, c'est le Bayer Leverkusen. Tu sens que là, la dernière marche, il a tellement donné. Il commence à être dans le dur. Hier, lors du quiz, on a vécu un petit moment d'absence. Quel Lillois est le fils d'un ancien joueur de la Mannschaft?
Olmeta.
Quel Lillois.
Il l'a dit avec un...
Ah ouais, non mais, il n'a pas fait Olmeta.
Olmeta.
Olmeta, ce fameux joueur dont le papa était dans la Mannschaft. C'est vrai que... Alors, moi, je ne sais pas ce qu'il faisait la famille Olmeta pendant la guerre. A priori, c'était plus dans le maquis qu'à la commandanture, mais... Visiblement, on n'a pas toutes les infos. On n'a pas trop compris ce moment de flottement de Christophe.
Il a tenté, voilà.
Ouais. Alors, par contre, il était au taquet un peu plus tôt dans un débat avec.
Mais rassurez-moi, c'était pas ça, hein.
C'était pas la réponse.
C'était Haraldsson, oui. Le fils d'Harald. Il était au taquet avec notre auditeur. On écoute, il était parfait.
Patrice, ton rejoint au 32-16.
Salut Patrice.
Salut, bonsoir.
Je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que rassure-moi Patrice, tu vas pas comparer la carrière de Luis Enrique en tant qu'entraîneur avec celle de Pierre Sage.
Tu me compares un match.
Mais c'est pas qu'un match. Rappelle-toi le match de Lens au Groupama Stadium.
Je te compare pas.
Vas-y Pierre,
juste. Journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Une journée pour se souvenir, une journée pour faire avancer la recherche. Pour faire un don de 10 euros à la Fondation pour la Recherche Médicale, vous allez souvenir par SMS.
Pourtant, moi, j'ai trouvé en forme dernièrement.
T'as fait un montage. T'es pas aussi rapproché.
Arrête, j'y étais, je suis très vexé, c'est pas du tout un montage. Le mec, on dit 20 fois Patrice, et il dit, te laisse pas faire Pierre.
On est sur 10 secondes après. C'est avoir dit bravo Patrice.
Il parlait pas de Pierre et Sage.
Non, mais Pierre, Patrice. Allez, tout ça, c'est pareil.
C'est pareil.
De toute façon, Pierre en anglais, ça se dit Patrice, hein. Dans cette édition, nous reviendrons sur la remontée incroyable de cette fête championnat, une remontée qui restera historique.
Lyon.
Non. La vraie remontée, c'est l'OM. vous êtes au courant? Depuis hier. Non, parce que qui de mieux que l'OM pour l'expliquer cette remontée? J'ai envie d'appeler le Isaac Newton du panier, le Archimède du Roucas Blanc, le Pythagore du camion Pids, Gros Samir.
Ceci est une analyse de Gros Samir, le patron du baby à Marseille.
En gros, vu que l'Atalanta est champion d'Europe,
d'Europa League,
et qu'elle a battu les Leverkusen, la meilleure équipe d'Europe et vainqueur d'Europe, elle a toute l'Europe.
Et beaucoup de matchs nuls, quand même.
Et qu'ils ont perdu 3-0, le même score contre l'OM. Sachant que le Bayern de Leverkusen,
c'est le Bayern.
Ils ont gagné à Bundesliga, mathématiquement, l'OM est champion d'Allemagne.
Et enfin, c'est pas.
Et vu que le Bayern, ils ont fini devant le Borussia Dortmund. Ça veut dire que Dortmund, quand ils ont éliminé le PSG alors qu'ils sont moins forts que le Bayern, qui est aussi fort que l'OM, ça veut dire que mathématiquement, l'OM est champion de France, gros. Donc si je résume, depuis hier soir, l'OM est champion d'Allemagne, champion de France et champion d'Europe.
Sauf que mathématiquement, on est 9e.
En sous toi, ceci était une analyse de Gros Samir, patron du baby à Marseille.
Mais vous savez que je pense que ça se dit dans certains... Dans certains milieux du métaverse, on doit t'expliquer que vu qu'ils ont gagné 3-0 comme contre l'OM au final, ça se
sont pas plus mauvais.
Il y a un club qui joue à la Coupe d'Europe. Hein, on va aller vite. C'est l'OGC Nice.
Inquiète. Oui.
C'est l'OGC Nice. Et l'OGC Nice, on a vu, il a perdu son directeur sportif et son entraîneur.
Exactement.
Mais ils sont sur un gros duo.
Oui.
Flo Maurice et Genesio. Flo Maurice, c'est pratiquement fait.
Bolizel.
Genesio, c'est le plus important. Jim Radcliffe l'a appelé en direct.
Ah bon?
Ah bon, on a vu nos micros.
Ah, écoutons.
Ah, c'est énorme.
Allô?
Hello, Mr. Genesio?
Allô, oui. Qui est à l'appareil?
Oh, pardon, je vous réveille peut-être.
Ah non, pas du tout. Je suis levé depuis 7 durs, là. Je suis à bloc. Forme de ouf.
Ah, d'accord. Monsieur Genesio, je peux vous appeler Bruno?
Bah oui, c'est mon prénom. J'ai pas choisi. Pas hyper funky, mais bon, c'est comme ça.
Ah oui, vous auriez préféré un nom plus funky?
Ah bah oui, moi je suis un gueudin. Un déglingo. Je mange des guêpes et tout. Vous m'avez pas dit, vous êtes qui,
je... Ah, pardon, je me présente, je suis Jim Radcliffe.
Ah, génial. Mec d'Harry Potter, je suis super fan. C'est vrai qu'Hermione, dans les derniers épisodes, pendant le tournage, elle portait pas de culotte.
Mais... Alors, pardon, je suis désolé, mais je ne suis pas l'acteur Daniel Radcliffe. Je suis Jim Radcliffe, le président de l'OGC Nice, l'homme le plus riche d'Angleterre. Et je vous appelle pour savoir si ça vous dirait d'être notre coach.
Le coach de l'Angleterre?
Non, le coach de l'OGC Nice.
Coach de Nice?
Ça va, Bruno? Vous faites un malaise?
Non, c'est un gris de joie. Je suis hyper content. Vous êtes milliardaire comme François Pinault. Sauf que lui, l'argent a été dépensé n'importe comment par l'autre, là. Flo Maurice.
Mais ça tombe bien! Je le prends comme directeur sportif, Flo Maurice! Vous êtes content?
C'est un gémissement.
Attendez, on va vous faire une équipe en petits oignons. Vous savez, nous, on a aussi Manchester United, donc on peut faire des passerelles. On va vous donner Rashford, par exemple. C'est cool, Rashford.
Marcus Rashford?
Non, c'est Bradley. Rashford, c'est son cousin. Il est au centre de formation de United. Et vous aurez aussi Fernandez.
Bruno Fernandez?
Non, c'est Stéphane Fernandez.
Oui,
c'est un jeune de Saint-Maur en post-formation à Man United. Et Anthony aussi.
Anthony, le Brésilien?
Non, Anthony, c'est mon neveu. Il est très fort en U17. Hein. Et puis Maguire.
Harry Maguire?
Yes, c'est ça, Harry Maguire. Je vous demande pas si vous êtes content là.
Non, non.
Bon, est-ce que vous acceptez l'offre?
Attendez, il faut que je demande à mon agent. Solange, Pupus, je te dis d'aller à Nice?
Ah ben oui, il fait chaud.
Alors d'accord.
Oh, cool, c'est d'accord. Un contrat de 3 ans, ça vous va?
Attendez, je demande à mon avocat. Pupus? 3 ans, ça te va?
Ah ben oui, j'aurai le temps de faire pousser mes
glaïeuls
dans le jardin.
Oh, d'accord.
Ah, super, je vous laisse, je dois appeler Flo Maurice.
Ah,
pardon, j'ai oublié. Désolé.
Eh ben, je sens que ce duo va te plaire.
On embrasse Bruno Genesio qui nous écoute régulièrement. Ouais, le vrai.
La pêche. Super content.
C'est trop bon. RMC, le Casar enchaîné.
Réécoutez Julien Casar en podcast sur rmc.fr et l'appli RMC.
S'il fait Bruno comme ça, Bruno Genesio comme ça, imagine comment il aurait fait Jacques Santini.
Ah ouais, intérêt. La polémique, Mohamed Camara, les clubs sont-ils trop laxistes? 32-16, à tout de suite.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.